Et l'article du père Alexandre Schmemann intitulé « La notion de la primauté dans l'ecclésiologie orthodoxe ». Donc, je commence encore par cet article du père Nikolai Afanassiev. Je résume parce que le père Nikolai Ozorin a parlé en détail de cet article, mais je dois résumer. Donc, dans cet article, le père Nikolai Afanassiev commence par opposer deux principes d'ecclésiologie. L'ecclésiologie universelle et l'ecclésiologie eucharistique. Cette dernière, l'ecclésiologie eucharistique, est la notion de l'Église comme elle existait dans l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église des premiers trois siècles. Mais, comme on a déjà entendu ce matin, Père Afanassiev fait remarquer que c'est déjà pendant le IIIe siècle qu'une autre conception de l'Église va remplacer l'ecclésiologie eucharistique. Et c'est l'ecclésiologie universelle. Donc, en deux mots, hein, l'essentiel de cette ecclésiologie universelle est l'Église vue comme un seul corps consistant en plusieurs parties. Et le père Afanassiev fait remarquer que cette ecclésiologie implique nécessairement un chef afin de garder l'unité de ses parties. Et le père Afanassiev voit donc le début de cette ecclésiologie universelle, surtout c'est Saint-Cyprien, qui dit que, je cite les mots du Saint-Cyprien, l'Église, une et unique, se compose dans son aspect empirique de diverses églises locales qui sont ses membres. Cyprien met l'accent sur l'Église visible, surtout, et l'Église empirique. Selon lui, l'ensemble empirique est le corps de l'Église catholique. Mais Saint-Cyprien garde en même temps l'ancienne tradition selon laquelle chaque évêque est vu comme le successeur de Pierre. Chaque évêque occupant la chaire de Pierre ou le trône de l'unique épiscopat. Episcopatus unus est. Père Nicolas a bien montré sur son icône, sur l'icône de la Pentecôte, tous les apôtres ensemble sur une chaise. Et c'est cette notion de Episcopatus unus est, de Saint-Cyprien. Selon le père Afanassiev, donc Cyprien n'a pas tiré la conséquence logique de sa notion de l'Église comme un assemblage de plusieurs parties. Père Afanassiev dit, je cite, son système reste logiquement inachevé. Donc ce père, il utilise l'image qui est dessinée par le père Boris ce matin du cône tronqué. Donc c'est un système inachevé. Car ce sera logique. Père Afanassiev dit, si Cyprien a accepté donc un seul chef à la tête de cette Église universelle. Donc il y a une ambivalence, c'est aussi remarqué par Père Ozolin ce matin, une ambivalence dans la théologie de Cyprien. D'un côté, il souligne que chaque évêque occupe la chaire de Pierre, Episcopatus unus est, mais d'autre côté, il écrit que l'Église de Rome est par excellence la chaire de Pierre. l'église de Rome l'église principale, ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exhorta et, d'où vient donc l'unité sacerdotale. Donc, le père Athanasius dit que cette ecclésiologie universelle diffère de celle de l'Église primitive. Au début de l'existence de l'Église, c'était l'Église locale, c'est-à-dire la communauté eucharistique, présidée par l'évêque, qui était considérée comme l'expression visible de l'Église, car l'Eucharistie est la manifestation du corps du Christ. Donc, je cite, chaque église locale, Père Athanasius dit, manifeste toute la plénitude de l'Église de Dieu, car elle est l'Église de Dieu et non pas seulement une partie de cette dernière. Et, mot fameux, hein, là où est l'Eucharistie, là est la plénitude de l'Église. Le père Nicolas Athanasius fait remarquer que selon cette ecclésiologie eucharistique, chaque église locale a absolument la même valeur qu'une autre église. Mais il ajoute que cette égalité en valeur des églises locales ne détruit pas la hiérarchie des églises locales. Égales en valeur selon leur nature, les églises locales ne sont pas cependant égales en autorité. Le père Nicolas explique qu'il s'agit ici d'une autorité du témoignage et non pas d'une autorité du pouvoir. Cela veut dire, il dit, un acte de témoignage sur ce qui se passe dans les autres églises. Or, s'il y a une hiérarchie des églises, il doit y avoir aussi une église à la tête de cette hiérarchie. Une église qui, par conséquent, occupe la première place. Et le père Nicolas préfère, comme on a entendu ce matin, le mot « priorité » au mot « primauté ». Parce que la notion de primauté, selon lui, est un terme juridique. Tandis que la priorité est basée sur l'autorité du témoignage, qui est un don de Dieu. Ce sont des mots cités ce matin par le père Nicolas, accordé à l'Église qui a la priorité. Deux choses sont importantes à souligner. Le père Nicolas Athanasius explique que cette priorité ne peut être un pouvoir sur les autres Églises, car une Église ne peut exercer un pouvoir sur le corps du Christ. Chaque Église locale étant la manifestation du corps de Christ. Et cela se voit dans l'histoire. L'Église qui avait cette priorité au premier siècle ne pouvait même pas imposer sa volonté aux autres Églises. Aussi, donc, le père Nicolas Athanasius dit, il ne s'agit pas non plus d'une priorité de l'honneur. Car cette priorité n'est pas vraiment un honneur, mais au contraire un service envers les autres églises. Donc, c'est la première chose à souligner, hein, la notion de priorité. Deuxièmement, le père Athanasius souligne que selon cette ecclésiologie eucharistique, les églises locales ne se présentent pas comme étant séparées ou divisées. Ce sont ces mots, je le cite mot par mot. Les églises locales ne se présentent pas comme étant séparées ou divisées, mais au contraire, comme unies entre elles. Donc, Père Hervé Legrand a donc parlé de la critique du Monsieur Jean Zizioulas de Athanasius, qu'il y a une sorte de localisme, hein, dans la pensée de Père Athanasius, mais ces mots montrent clairement, hein, que pour Père Afanassiev, ces églises locales n'étaient pas isolées les unes des autres, hein, mais ils sont, comme il dit, unis entre elles. Hein, on peut facilement faire une caricature aussi, hein, d'une pensée. Mais je pense que hein, donc cette critique du Monsieur Zigilos n'est pas juste. Donc, en ce qui concerne la différence entre primauté et priorité, le père Afanassiev fait remarquer que la notion de priorité est liée d'abord à une église particulière, tandis que celle de primauté est liée à la personne d'un évêque qui gouverne l'église. Le père Nicolas admet que dans l'histoire, la priorité d'une église se réfléchit dans la personne de l'évêque, c'est vrai, mais cela est un phénomène second. Et en ce qui concerne la primauté, au cours de l'histoire, la primauté d'un évêque a toujours été liée à une église déterminée. Mais, père Nicolas dit, théoriquement, nous pouvons admettre que la personne en possession de la primauté peut se trouver en dehors de toute église déterminée. Certaines tendances dans la pensée catholique en sont la preuve. Ces deux conceptions, primauté et priorité, comment elles regardent l'action de l'unité de l'Église? Donc, elles conservent l'unité de l'Église dans une manière différente. La notion de primauté attribue l'unité à l'Église universelle, manifestée dans la personne du primat, tandis que la notion de priorité attribue cette unité à chaque église locale, manifestée dans la célébration de l'Eucharistie. Le père Nicolas souligne que la notion de priorité n'est pas une base juridique, elle est un don de Dieu. Et c'est ma question fondamentale quand je réfléchis sur ces deux articles, parce qu'il y a un problème de critère. Quel est le critère de cette priorité ou primauté si, comme le père Nicolas dit, la priorité d'une église est un don de Dieu, le problème se pose s'il existe un critère objectif sur la base duquel une église particulière peut réclamer cette priorité. Donc, quel est le critère de cette priorité? Et la réponse du père Afanassiev est qu'elle n'est pas basée sur un critère. Et dans l'histoire, dans l'église ancienne, c'était d'abord l'église de Jérusalem, ensuite celle de Rome, qui ont joué le rôle de l'église qui préside dans l'amour. En ce qui concerne l'église de Jérusalem, sa situation prioritaire est facilement compréhensible, le père Nicolas dit, parce que Jérusalem était l'église de la ville la plus sainte du christianisme. Aucune autre église ne pouvait lui être comparée, et par conséquent, c'est son témoignage qui avait le plus d'autorité. Mais après la mort de l'apôtre Jacques, et surtout après la chute de Jérusalem en 70, l'église de Jérusalem avait perdu ce rôle d'être l'église qui a une autorité particulière. Et elle devenait une petite église de la nouvelle ville païenne, Elia, qui ressortait à l'église de Césarée. Ensuite, à la fin du 1er siècle, l'église de Rome devenait l'église qui a la première place parmi les autres églises. Il est remarquable que la littérature patristique, Clément de Rome, Ignace d'Antioche et Irénée, ne donne pas un critère bien défini de cette priorité de l'Église de Rome. Et le père Nicolas remarque, fait remarquer, le titre de la lettre de Clément de Rome est significatif. C'est l'Église de Dieu demeurant à Rome, à l'Église de Dieu demeurant à Corinthe. Donc, cette lettre n'était pas écrite au nom de la personne du pape, hein, l'évêque de Rome Clément, mais au nom de son Église, l'Église de Rome. Donc, le père Nicolas explique que l'Église de Rome ne se considérait pas au supérieur à celle de Corinthe, car l'une et l'autre sont nommées Église de Dieu. Et dans cette lettre, l'Église de Rome, dans la personne de son évêque Clément, donna son opinion, c'est-à-dire un témoignage, sur ce qui s'est passé dans l'Église de Corinthe. Ce n'était pas un acte juridique de la part de Clément ou de son Église. Mais il est remarquable que cette lettre ne dit rien sur les fondements de cette priorité ou autorité de témoignage. Aussi, saint Ignace, dans son lettre à l'Église de Rome qui précède dans l'amour, garde le silence sur le critère de cette présidence dans l'amour. Seulement chez saint Irénée, on peut trouver des remarques qui s'approchent d'un critère. Il écrit, l'Église de Rome est la très grande et la très ancienne, connue de tous et fondée et constituée par les très glorieux apôtres Pierre et Paul. Mais tout reste vague. Et finalement, le père Afanassef cherche le critère de cette priorité dans le contexte de son ecclésiologie eucharistique. La base de l'existence de chaque Église est la grâce donnée dans la célébration de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi aussi, selon le père Afanassef, la priorité d'une Église particulière doit être aussi basée sur la grâce de Dieu. En d'autres termes, la priorité n'est pas un concept juridique, mais charismatique. Et le père Nicolas a déjà cité ces mots du père Afanassef. Nous ne pouvons pas expliquer ni pourquoi l'apôtre Pierre avait occupé une place spéciale parmi les apôtres, ni pourquoi la priorité qu'avait possédée l'Église de Jérusalem, et pourquoi elle a été transmise à celle de Rome. Il est remarquable que le père Afanassef ne pense pas à un autre fait évident pour moi, et c'est l'importance de la ville comme base de la priorité de l'Église. Et je pense que cela s'explique du fait que toute sa pensée était centrée sur l'Eucharistie. Mais dans ce cas, les faits historiques ne peuvent être ignorés. C'est-à-dire, c'est évident que la ville de Jérusalem et son Église avaient une importance particulière pour les premiers chrétiens. Et ensuite, Rome était la ville, le centre de l'Empire. Ce fait n'est pas mentionné par Ignace ni par saint Irénée, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que l'Empire fut encore païen à cette époque. Mais il me semble donc qu'il y avait une nécessité historique à l'origine de cette priorité de l'Église de Jérusalem et de l'Église de Rome. Et j'utilise le mot de François Dornic qui, dans son livre sur la primauté de Pierre, utilise l'expression de principe d'accommodement. Ça veut dire accommodement à la structure de l'Empire. Donc l'Église a toujours suivi dans l'Empire la structure de l'Empire. Quand une ville avait une importance spéciale, aussi l'évêque de cette ville avait une importance spéciale. Maintenant, le père Alexandre Schmemann. Le père Alexandre Schmemann reprend l'approche de son maître et il entre plus dans des détails du développement historique de la primauté. Cependant, il n'utilise pas le mot « priorité », mais garde celui de « primauté ». Donc, comme le père Afanassiev, le père Alexandre Schmemann souligne l'importance de la distinction entre ecclésiologie universelle et ecclésiologie eucharistique. Le père Alexandre définit le mot primauté par une forme de pouvoir, mais comme le père Afanassiev, il précise que ce pouvoir, entre guillemets, ne peut être un pouvoir supérieur à celui d'un évêque dans son diocèse. Car dans l'Église, le pouvoir est un charisme, comme toutes les autres fonctions dans l'Église, donné dans le sacrement de l'ordination. Donc il suit la pensée du père Afanassiev. Combien de minutes me reste encore?
Terminé dans 10 minutes.
Ça 10 minutes, ok.
On
pourrait
une discussion.
Oh, ok, oui. Oui, donc le père Alexandre Schmemann dit que dans l'Église, il n'y a aucun autre pouvoir que le pouvoir épiscopal. Mais l'Église ne connaît pas, j'aime beaucoup cette expression, l'Église ne connaît pas un sacrement de primauté. Et le père Alexandre admet donc le fait historique dont au cours de l'histoire de l'Église orthodoxe ce principe a été oublié et que la notion de pouvoir suprême a été introduite dans la structure de l'Église comme son élément essentiel. Donc avec père Nicolas aussi, il est déçu dans le développement, dans l'histoire de l'ecclésiologie. Un divorce entre tradition canonique et fait canonique. Oui. Donc, le père Alexandre dit donc ensuite que le concile des évêques est la première et principale forme de la primauté, ou plus exactement sa condition et base. Le but d'un concile des évêques est de l'origine l'élection et l'ordination des évêques. Le concile apparaît avant tout dans l'histoire comme un concile régional, c'est-à-dire le concile d'une province métropolitaine. Il était convoqué et présidé par un premier évêque, l'évêque de la métropolis, le métropolite. Donc le père Alexandre explique que le protos, dont parle ce fameux canon apostolique 34, est ce premier évêque de la province. Mais, le père Alexandre continue, parmi ces premier centre de primauté, ça veut dire la métropole ou capitale des provinces, il se trouvait ceux qui avaient une autorité particulière, non pas seulement Rome, mais aussi Alexandrie, Antioche, Lyon, Carthage. Le père Alexandre utilise le terme second degré de la primauté. Cette forme de primauté était le résultat de l'activité missionnaire les églises des grandes villes. Les églises qui avaient leur origine dans cette activité missionnaire s'adressaient naturellement à leur église mère au cas d'un conflit ou problème particulier. Donc c'est sur cette base que se développait plus tard le système de patriarcat. Et cette primauté n'avait rien à voir avec droit. Il ne s'agissait pas d'un pouvoir d'une église sur les autres églises, mais toujours de la manifestation, je cite les mots du père Alexandre, et l'expression de leur unanimité, de leur identité dans la foi et dans la vie. Et ensuite, le père Alexandre dit, il y a une troisième forme de primauté, c'est ce qu'il appelle la primauté universelle. Donc le père Alexandre rejette avec le père Afanassiev la notion d'ecclésiologie universelle, mais il accepte la notion de primauté universelle. Donc dans l'histoire, c'était l'église de Jérusalem et celle de Rome qui avait exercé cette forme de primauté. Quelle était la nature de cette primauté universelle selon le père Alexandre? Et il dit que essentiellement la même chose que le père Afanassiev quand il parle de la priorité. Il dit donc cette primauté universelle consistait à garder et exprimer l'unité des églises dans la foi et dans la vie, garder et exprimer leur communion de pensée. Ne pas permettre aux églises locales de s'isoler dans le provincialisme des traditions locales. En définitive, cela signifie avoir souci et sollicitude de ce que chaque église soit plénitude. Et le père Alexandre dit que cette primauté universelle n'est pas une simple présidence conçue en termes démocratiques. Mais quand même, cette notion de primauté universelle, selon lui, implique cette conception de une église particulière peut être le porte-parole pour toutes les autres églises. Et maintenant, je commence à me douter de cet développement parce qu'il va un peu plus loin que le père Afanassiev ici. Et maintenant, je veux donc finir avec mes propres réflexions parce que je ne suis pas content avec ces deux articles. Contrairement au père Afanassiev, le père Siméon, on n'aborde pas le problème de critères de cette primauté universelle. Et quand même, la question se pose, s'il y a quelque chose qu'une primauté universelle, quel est le critère de cela qui donne à l'évêque d'une église locale particulière ce pouvoir d'être le porte-parole pour toutes les autres églises? Et quand on connaît, ce sont donc mes propres réflexions, par exemple, dans l'histoire, on voit une certaine institutionnalisation de la primauté qui commence au IVe siècle, je pense au troisième canon du deuxième concile œcuménique, qui parle de présidence d'honneur, presbyte, de l'église de Rome et de l'église de Constantinople, et la même chose avec le concile chalcédoine, canon 28. Donc il y a une tendance de fixer cette C'est intéressant. Ce canon n'utilise pas le mot primauté, en tout cas, dans le texte grec, hein, mais presbyia. C'est un terme très vague qui n'est pas précisé. Et la traduction latine a traduit ce mot presbyia en primatus. Hein. C'est intéressant à noter. Donc, on va fixer quelque chose hein, avec Rome et Constantinople depuis le IVe siècle. En effet, le père Alexandre admet que l'Empire byzantin a connu une mystique patriarcale, c'est-à-dire une croissance et développement du pouvoir du patriarche de Constantinople. Mais il explique, je pense qu'il a raison, que les racines de cette mystique patriarcale diffèrent du papisme romain. C'est dans un autre contexte. Le papisme romain visait à dominer l'Église et le monde entier, tandis que cette mystique patriarcale à Byzance était la conséquence d'une vision particulière de la relation entre l'Église et l'État. Selon cette notion, doit se trouver un patriarche à côté de l'empereur. Et comme il y a un pouvoir suprême dans l'État, de la même façon, il va être aussi un pouvoir suprême dans l'Église. Donc la base de cette conception est plutôt politique et pas religieuse. Après donc, la chute de Constantinople et l'Empire, la notion de la primauté est entourée d'ambiguïté. Donc maintenant, je parle de mes propres réflexions sur ces deux articles. On sait, quand on connaît l'histoire, que dans l'Empire ottoman, Constantinople a continué à exercer sa primauté, mais exactement dans le sens de cette mystique patriarcale, comme pouvoir suprême sur les autres églises. Les anciens patriarcats dans le monde slave, se situant dans l'Empire ottoman, furent supprimés et un processus de hellénisation de ces églises avait commencé. Et d'autre côté, en Russie, au XVIe siècle, la notion de Moscou comme la troisième Rome va commencer. Donc il y a une ambiguïté qui, dans l'histoire, a commencé et qui continue aujourd'hui. Et cela explique le fait, remarque, que ces deux articles du père Afanassiev et du père Smeyman restent vagues. Exactement sur ce pan de critères de cette primauté. Si l'on garde le critère charismatique du père Afanassiev, la primauté comme don de Dieu, aujourd'hui, quelle église pourrait satisfaire ce critère charismatique? Et l'autre critère, que moi-même, dont j'ai parlé, une certaine nécessité historique, principe de accommodement dont Dvornik a parlé, ne marche pas aujourd'hui parce qu'il n'y a plus un empire romain. Donc il y a une église qui est maintenant la capitale de l'empire. Mais le problème d'aujourd'hui est ce que les orthodoxes font semblant que l'ancien empire toujours existe. Mon père Alexandre Smeyman écrit dans son journal intime que à l'occasion de la visite du patriarche d'Antioche à Saint-Vladimir, je cite ce mot, le monde orthodoxe a décidé de vivre dans une illusion. Le monde orthodoxe a fait l'Église partie de cette illusion. Hier, chez nous, on a entendu plusieurs fois l'expression « patriarche de la grande ville d'Antioche et tout l'Orient ». Le monde orthodoxe a fait l'Église un monde non existant. Aussi, donc, le terme patriarche œcuménique aujourd'hui, il n'y a plus un empire œcuménique, Parce que l'Empire byzantin prétendait d'être un empire universel, œcuménique, mais cet empire n'existe plus. Donc quel est exactement aujourd'hui le sens de ce mot œcuménique aujourd'hui? Donc il y a une grande ambiguïté qui continue aujourd'hui. Pour rester sur un ton plus positif, je vais mettre l'accent sur une autre. C'est remarquable que les deux auteurs, le père Afanassiev et le père Schliemann, n'ont pas mentionné un autre terme qui fait utiliser par les Byzantins, parce que le mot primauté n'était pas utilisé par les Byzantins, hein, pas un proti ou quelque chose. Ils parlent de presbyia, hein, ça veut dire honneur, hein, un terme très vague. Mais ils ont utilisé un autre terme, c'est de pentarchie. Et ce principe de pentarchie était introduit au VIe siècle, mais surtout développé au concile de 869 à Constantinople, le concile qui avait condamné Photius. Donc là, les théologiens byzantins voulaient rendre clair qu'ils pourrait reconnaître le pape de Rome comme une sorte de premier patriarche dans l'Église. Ils peuvent accepter cette notion simplement dans le contexte de la pentarchie, c'est-à-dire l'unité et l'égalité de toutes les églises autocéphales. Et pour conclure, il me semble que notre époque demande que ce principe de pentarchie, il faut changer le terme parce qu'il y a plus de 5 patriarches, donc on peut parler de polyarchie peut-être. Il me semble que notre époque demande que ce principe doit être accentué. Et il faut oublier le mot primauté, parce que ce mot primauté nous est donné par l'Occident, le mot primatus, et ce mot n'était pas utilisé par les Byzantins.
Le professeur Van Roos, tout d'abord d'avoir tenu les temps, ce qui va nous permettre d'avoir 5 minutes de discussion et d'avoir tout d'abord, on ne peut pas demander mieux à un historien que de souligner la réalité historique, hein, d'avoir souligné un peu cette nostalgie impériale qui a caractérisé non seulement l'Orient, mais l'Occident également, puisque c'est un peu par nostalgie impériale que le siège de Rome va, en quelque sorte, le pape va remplacer l'empereur d'Occident, et que, sous les Ottomans, le siège de Constantinople va remplacer le siège de l'empereur, et que va se développer comme la théorie de la troisième Rome. D'avoir aussi insisté sur le sens des mots, nous avons beaucoup, les orateurs de ce matin également l'ont souligné, est-ce que presbyia signifie la même chose que primatus, et vous l'avez peut-être pas souligné, mais il y a toute la question qui se pose des différentes traductions. Hein. Lorsqu'on utilise, on parlait tout à l'heure, on discutait en descendant, en français on fait la distinction entre primauté et priorité, mais est-ce que dans d'autres langues cette distinction existe? La même chose, qu'est-ce que la primauté sous-entend en français? Est-ce que c'est la même chose qu'elle sous-entend dans d'autres langues? Enfin, la question des langues et des mots est une question importante. Mais je donne tout de suite la parole à la salle pour des questions. On va prendre 5 minutes de discussion et puis on aura, après le dernier exposé, d'abord une discussion qui concernera le dernier exposé, mais on aura aussi une discussion plus générale d'ensemble, puisque ce matin on a été très limité par le temps pour poser des questions.
Une question rapide. Je dirais que je suis très sensible à la problématique des critères. Et des critères, est-ce des critères institutionnels, est-ce des critères d'importance de la ville, est-ce des critères de fondation, est-ce des critères moraux ou même proprement d'autorité spirituelle? Je crois que dans le problème qui se pose actuellement dans la discussion, que ce soit à Moscou ou entre les orthodoxes ou en relation avec Rome, du problème de la primauté, cette question ne peut pas ne pas se poser d'une manière brûlante, et je dois dire qu'il faudra certainement profondément renouveler toute notre approche par rapport à cette question. Ce problème des critères devient, je crois, certainement un des problèmes les plus brûlants et les plus actuels.
Peut-être qu'on va prendre plusieurs questions.
Je pense qu'il y a aussi des fausses questions, parce que cette question de primauté nous est donnée par l'Occident, et ce n'est pas vraiment dans notre tradition.
On va peut-être, Joost, si vous êtes d'accord, on va peut-être prendre plusieurs questions, et vous allez peut-être répondre dans l'ensemble.
Oui. Il y a ici, M. Moi, j'entends que souvent on utilise ce terme, et la question sur la primauté vis-à-vis de l'Église de Rome, il me semble que la problématique est brûlante chez nous, dans notre propre maison. Elle se pose d'une façon absolument urgente au sein de l'orthodoxie elle-même, notamment en présence des prétentions assez intéressantes, je dirais, humoristiquement, de Constantinople.
Des uns et des autres.
Oui, non, mais parce que certainement. Et là d'ailleurs, je suis étonné que Zizioulas ne soit pas reconnaissant à Athanase de ne pas justement avoir appuyé sur ce point-là, parce que s'il avait appuyé sur ce point-là, l'idéologie de Zizioulas n'aurait pas pu se développer de la manière dont elle s'est développée ces dernières années.
Oui. Par
Nicolas. Oui. Je voulais simplement, est-ce que peut-être le mot presbyte. Est-ce qu'on peut, je pense qu'on a vu son traduisé starchenstvo, starchi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser comme quelque chose l'ancienneté.
Ancienneté.
Oui. L'ancienneté et pas primauté.
Oui, c'est impliqué. Dans
voilà, parce que je pense que chez les Byzantins, le mot presbyte, évidemment, si tu as raison, il y a le sens d'honneur, mais d'honneur lié avec l'ancienneté.
Oui, oui, oui.
Voilà,
oui.
Et ça c'est très...
Presbyère, c'est les prérogatives. C'est presbyatimis, l'expression.
Oui, oui, mais il y a aussi un autre sens.
Priorité, c'est difficile de traduire.
Presbyatimis, on traduit souvent en russe, prépare sa chiste, c'est-à-dire.
Oui.
Indirectement par un seul mot.
Non,
deux mots.
Presbyère, sa chiste.
On va nous timis et presbyser, c'est la bonne.
Dignité.
Et chez les Byzantins, il y a l'ancienneté aussi.
Oui,
et ça, je peux te donner des exemples.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Il y avait Père Nicolas, ensuite Père Le Grand.
Mon père, allez-y. Vous êtes notre hôte. Allez-y.
Bonjour. Oui, non, simplement, je voudrais, si nous avions un helléniste parmi nous, je suis pas convaincu que Timé soit traduit correctement par honneur, au sens où à l'honneur aujourd'hui dans le français du XXe siècle. Moi je crois que le correspondant latin, par exemple, de Timé, c'est pondus, et pas honor.
C'est presbyte, c'est pas timi.
Oui,
et pas le timi.
Parce qu'on parle d'honneur, n'est-ce pas? Parce que moi je crois que le père Job a tout à fait raison, c'est-à-dire que notre langue est un moyen de communication, mais c'est aussi un moyen d'auto-aveuglement. Mm-hmm. Et si nous laissons circuler le terme honneur, primauté d'honneur, je voudrais savoir ce que l'on dit, parce que je ne crois pas que timé en grec signifie que signifie honneur en français aujourd'hui, le français du XXe siècle.
Oui,
et je voudrais plus de lumière, c'est-à-dire qu'un helléniste me dise quel est vraiment le sens de timé en grec. Je ne suis pas persuadé du tout que ce soit simplement honneur. Je suis persuadé que ça a quelque chose à voir avec le poids de quelque chose, l'importance.
Oui.
Mais l'importance et le poids en français ne signifie pas l'honneur. L'honneur, c'est un autre chose.
En tout cas, c'est un terme très vague, très précisé dans ces deux canons, troisième canon de Concile de Constantinople et canon 28 de Chalcédoine. C'est pas précisé qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas expliqué dans ces deux canons. Donc ça reste très vague, ce mot.
Père Nicolas.
Yost, tu avais tu te posais la question à propos de l'origine de la presbyère. Et bon, je pense que ce n'est pas un secret que ça doit être lié au droit d'appel. Parce que les fameux canons de Sardique, n'est-ce pas, qui étaient à la Sardique, vous voyez, à cette époque-là, faisaient partie de l'Occident, et le Conseil de Sardique a prononcé, a donné des canons sur le droit d'appel à Rome. Et toute la question était dans quelle mesure, au début, ces canons étaient acceptés en Orient. Et alors, et visiblement, enfin, je veux dire, ce n'était pas une affaire de quelqu'un qui voulait être. On cherchait une solution à des situations de conflit. Et dans les situations de conflit, il y avait le droit d'appel. Et le droit d'appel n'est pas du tout un pouvoir sur quelqu'un.
Non.
Donc c'est très important de le souligner. C'est très important de le souligner parce que on remet la chose, on recommence par le jugement.
C'est ça l'idée. C'est pas la fin, ce qui est dit.
Aussi, bien sûr, mais tout le monde l'a dit. Mais puisque tu as posé la question, je pense donc ici, aujourd'hui, il est important de le souligner. Et je dirais même, c'est pas la peine d'aller très loin, le métropolite Loge, qui était craigné d'être, et qui finalement a été interdit par le locum tenens de Moscou, a eu l'impression que quelqu'un lui a soufflé. Mais qu'il y avait la meilleure solution, ça serait de faire sous l'apparence de mon parole, ou même sous la procédure d'un appel, du droit d'appel à Constantinople, parce qu'il se disait en conflit canonique avec Serge. Et c'était, je pense que c'est comme ça quand les choses étaient présentées à l'époque. Maintenant, quand tu dis que le père Alexandre Schmemann, je me rappelle des conversations qu'on a eues quand on allait une fois quelque part au centre en voiture en Amérique, et on a parlé un jour de Constantinople. Il me disait, mais moi j'ai tant d'années de ma vie, j'ai donné, n'est-ce pas, pour construire, pour défendre la primauté constantinopolitaine. Mais j'en peux plus parce que ça n'a pas donné les résultats que nous attendions en tant que haussiers. Et alors nous sommes tournés vers Moscou. Et là, on nous a compris. Bon. Donc, je veux dire qu'il a été un de ceux qui ont vraiment, un des pères de cette, comme on la présente aujourd'hui, cette primauté de Constantinople. Et un de ceux qui a justifié pendant de longues années, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le retour sur Constantinople après le retour de Loge dans l'église. Bon, je viens de dire tout cela parce que la procédure d'appel à l'origine a joué un rôle, je pense, décisif dans toute cette histoire que nous connaissons si
bien. Oui, c'est vrai.
Bien, on va arrêter les questions. Yous, vous pouvez répondre un peu dans l'ensemble et on va passer au conférencier suivant, et on aura, comme je vous l'ai dit, après la dernière conférence, les questions liées à la dernière conférence, on aura encore l'occasion de poser des questions à tous les intervenants de la journée.
Mais c'est aussi ce concept de Sardique, ce canon sur le droit d'appel, était écrit après les Orientaux avaient quitté le concile. Il y avait un conflit sur Athénas, et donc les Orientaux n'étaient pas contents, les Occidentaux sont restés, et c'est eux qui ont écrit ce canon. Je pense que c'est pour expliquer ce qu'un homme s'habille.
Bien, nous remercions le professeur.